l'économie de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Publié en 1950, le roman d'Hemingway « Au-delà du fleuve et sous les arbres » valut à l'écrivain d'être assassiné par la critique américaine. Hemingway n'avait rien publié depuis 10 ans. Il avait 51 ans et il avait fallu sa rencontre avec Adriana Ivancic, une petite comtesse italienne de 19 ans dont il tomba amoureux, à en mourir selon ses propres mots, pour qu'au-delà du fleuve et sous les arbres voit le jour. « Tu m'as rendu la possibilité d'écrire, lui dit-il, j'ai pu finir mon livre et j'ai donné ton visage à l'héroïne. » Car ce roman est bien comme un écho de cette liaison que l'on a dit sans le savoir platonique. Renata y ressemble à Adriana et le colonel Richard Cantwell peut rappeler Hemingway, mais c'est bien de littérature dont il est question, d'un roman sur lequel, outre-Atlantique, on tira à boulets rouges. Œuvre la plus pauvre jamais produite par l'auteur, autoparodie, livre stérile, et 15 ans plus tard encore, lors de la parution de sa traduction française, Marivaudage balourd, lisait-on dans Le Monde. Pourtant, parmi les admirateurs d'Hemingway, nombreux sont ceux qui considèrent « Au-delà du fleuve et sous les arbres » comme l'un de ses plus grands livres, voire le plus grand. Philippe Solers notamment, qui était invité à le proclamer dans une série que Les Chemins de la Connaissance consacrait en 1985 à Hemingway. Au micro de Jean Dève, il se livrait à une analyse fine, brillante et amoureuse de « Au-delà du fleuve et sous les arbres », donnait quelques pistes, expliquant le rejet massif dont il avait été l'objet et disait pourquoi on devait ranger Hemingway parmi les plus grands écrivains du XXe siècle, aux côtés de Proust et Joyce. Les chemins de la connaissance, Ernest Hemingway, « Au-delà du fleuve et sous les arbres » avec Philippe Solers, troisième volet d'une série de 5, diffusé la première fois le 23 octobre 1985 sur France Culture.
Now sleeps he with that old whore Death, who yesterday denied her thrice. Repeat after me. Now sleeps he with that old whore Death, who yesterday denied her thrice. Pause. Wait for them to close up. Continue. Did you deny her? Yes. Thrice? Yes. Repeat after me.
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3.
Philippe Solers, comment raconteriez-vous le dernier roman au fond de Hemingway, Au-delà du fleuve et sous les arbres ?
Je pense que c'est le roman le plus important de Hemingway et lui-même le considérait comme son meilleur livre. On a l'habitude de considérer que c'est Le vieil homme et la mer, mais en réalité c'est Au-delà du fleuve et sous les arbres, qui, on le sait, paru en 1950, a été l'objet de très très violentes critiques. Sauf de la part de John O'Hara dans le New York Times, qui n'a pas craint de comparer cette œuvre de Hemingway à Shakespeare, tout simplement. Et je crois que le rapport est extrêmement bien vu, parce que c'est en somme la tempête de Hemingway. C'est l'adieu aux armes de la magie romanesque dans un livre extrêmement déroutant probablement pour l'époque, la mythologie qui s'était construite autour d'Hemingway, mais qui est, d'un point de vue strictement technique, un des plus grands livres qu'on ait jamais écrit par son économie, sa rapidité et surtout son sens des dialogues.
Une journée, une seule journée, Venise, la plus grande simplicité. Un homme, la mort, le dernier grand amour. Une jeune fille, le désespoir et tous les souvenirs. Un portrait donne un chef-d'œuvre. Au-delà du fleuve et sous les arbres, publié en 1950. Il n'y a rien que la fluidité d'une narration qui prend tout, qui se sert de tout, avec la plus extraordinaire maîtrise, tout en se retirant d'elle-même toujours.
Qu'est-ce qui se passe ? C'est un roman très lié. La partie la plus secrète et la plus intéressante probablement de la fin de la vie d'Hemingway, c'est-à-dire les relations qu'il a eues avec Adriana Ivancic, qui était une aristocrate vénitienne, très jeune, 18-19 ans dans le livre, elle s'appelle Renata. Hemingway a 50 ans et il va se mettre en scène sous la forme d'un colonel de l'armée américaine après la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est très très intéressant de voir que, à propos de la Deuxième Guerre mondiale à laquelle Hemingway a participé comme combattant, comme reporter, tout le monde se souvient de son entrée au Ritz, enfin finalement c'est Hemingway qui a libéré le Ritz, c'est-à-dire Paris. Il est très intéressant de voir que sa méditation sur la Deuxième Guerre mondiale, loin d'être dans sa ligne habituelle de la grande épopée militaire ou des idéaux progressistes de sa jeunesse, puisque pour qui sonne le glas, etc., est au contraire un détachement complet, ironique, une sorte de fin de non-recevoir à tous les idéaux virilistes, héroïques ou pathétiques. Et ça, je crois que la critique l'a ressenti d'une façon très blessante. Cette Deuxième Guerre mondiale, qui pour Hemingway, romancier, finit dans une série de déplacements minimaux dans Venise, de bar en bar, avec une petite jeune fille de l'aristocratie vénitienne, une comtesse, et qui est entièrement fait de dialogues presque superficiels sur tout et sur rien, sur le temps qu'il fait, sur la nourriture beaucoup, sur l'art de vivre en dépensant du temps comme ça pour rien dans les cafés, dans les bars de Venise. Ça a dû profondément choquer tous les admirateurs de Hemingway, ou tout, même les adversaires de Hemingway. C'est un livre où vous trouvez des réminiscences littéraires très étonnantes, n'est-ce pas? D'une part, bien entendu, les mémoires de Casanova qui sont à l'horizon. Il y a une promenade en gondole avec des allusions sexuelles tout à fait précises. Et d'autre part, un hommage qui me touche beaucoup, moi, personnellement, qui est un hommage à Joyce. On est à Venise, Trieste n'est pas loin. Hemingway est vieux, usé. La Deuxième Guerre mondiale vient de s'achever. Il est là, colonel en retraite, qui va mourir bientôt dans une chasse aux canards pas loin de Venise, justement dans cette région triestine d'où Adriana Ivančić était issue, région qui a vu naître les plus grands chefs-d'œuvre littéraires de l'entre-deux-guerres, avec Joyce ou Pound. Et Hemingway a tout ça en tête. Et il y a une allusion très, très fine, très subtile, à des passages les plus étonnants de Finnegan's Wake. Tout ça est très codé. Et il faut se rappeler que Joyce et Hemingway étaient amis. Hemingway a été un des premiers à défendre Joyce constamment, y compris contre la censure lourde et quasiment gynécologique bétonnée de Lautenstein, et que non seulement il l'a défendu, non seulement il a été un des premiers à signer la pétition contre l'interdiction d'Ulysse, mais encore, il y a une anecdote moi, qui me fascine beaucoup. On sait de temps en temps ils buvaient ensemble, et il y a une anecdote que raconte Hemingway qui est très très intéressante, où en sortant d'un café, Joyce et lui, un peu sous probablement, se prennent de querelle avec un type, et Joyce commence à vouloir se battre physiquement, et ne voyant pas, puisqu'il était aveugle, dit à Hemingway, allez-y Hemingway, réglez-lui son compte, n'est-ce pas ? Il y a là quelque chose qui est très touchant. Donc, au-delà du fleuve et sous les arbres, c'est quoi ? C'est le plus grand livre d'Hemingway, un des livres les plus importants, à mon avis, du roman du XXe siècle, et qui ramasse ce que j'appellerais chez Hemingway son désir du Sud. Et c'est pour ça aussi que c'est un livre très gênant. Hemingway, c'est un Américain de Chicago, protestant, qui n'a pas cessé de plaider, enfin, en romanesquement, dans la perception, de plaider pour cette espèce d'émerveillement du Sud, l'Espagne, l'Italie. Hein. Et en dehors de toute cette vie africaine, de chasse et de mer et de pêche, il y a ce cœur de l'heure, qui est au-delà du fleuve et sous les arbres, qui se passe donc à Venise. Venise, c'est le moment où on va basculer vers la mort et où il n'y a strictement plus rien à faire qu'à échanger des propos très brefs sur les choses les plus superficielles de la vie. Simplement le goût, hein, le vin, la nourriture, le temps qui passe, etc. Et pourquoi ça s'appelle au-delà du fleuve et sous les arbres? Et ça confirme cette thèse du vote sudiste d'Hemingway, pour finir, sudiste au sens de la grande civilisation italienne. C'est une phrase d'un général sudiste, justement, qui s'appelait Thomas Jackson, et qui, pendant la guerre de sécession, a dit, il a senti qu'il allait mourir, il a dit à un de ses ordonnances, il y a un ordonnance qui est très important là dans le livre Au-delà du fleuve et sous les arbres, qui a dit, eh bien, traversons la rivière et allons au-dessous des arbres, et là, on peut mourir. Ce qui est très intéressant, c'est que Renata, la jeune fille en question. Il s'agit donc d'un rapport entre un type vieux, usé, blessé, cicatrisé, qui va mourir d'une chasse au canard. La chasse au canard est faite pour montrer comment on prend le canard avec comme à peau. Une plante, c'est-à-dire que la femelle est là pour attirer le mâle qui va se faire tuer. C'est le sens du livre. Le désir sexuel est l'indice que la mise à mort va avoir lieu. Hein. Donc on est vraiment au fond des choses. C'est un thème qu'on retrouve souvent chez Hemingway. Eh bien, cette fille jeune, alors là, il faut entrer un peu dans la réalité, les coulisses du roman, c'est-à-dire qu'on sait qui c'est. C'était une fille qui s'appelait Adriana Ivančić, et qui s'est mariée après avec un comte, je crois, allemand, qui a toujours prétendu que ses relations avec Hemingway avaient été purement platoniques. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle a brûlé toutes ses lettres, probablement 2000. Elle est allée ensuite à Cuba, au moment où il écrivait Le vieil homme et la mer, mais avec sa mère. Et donc là, une relation extrêmement vive, violente, très légèrement décrite dans Au-delà du fleuve. Et elle a fini quand même, il y a 2 ans à peine, en 1983, par se pendre dans sa propriété, pas loin de Venise, Trieste, par se pendre à un arbre dans son jardin. Hein. Into the trees, sous les arbres. Au-delà du fleuve et sous les arbres. Donc ça fait quand même une histoire très forte, confirmée par la réalité, ce qui arrive assez rarement quand même dans la littérature. Et voilà, donc il y a une petite histoire de portrait aussi qui est assez intéressante, c'est-à-dire qu'il y a un dialogue entre l'image de cette...
Le portrait dans la chambre.
Le portrait dans la chambre, oui. Dans la chambre d'hôtel, oui. On est dans des chambres d'hôtel. Moi j'aime beaucoup la description que fait Hemingway de la vie d'hôtel ou de bar à Venise, bien entendu. Et c'est aussi un livre qui rappelle au fond toute sa merveilleuse façon d'être dans une fête mouvante, comme il disait, Movable Feast, qu'on a traduit par Paris est une fête. Mais enfin, on voit très bien que Paris et Venise sont pour lui les meilleures années de la superficialité profonde de la vie. Et Paris est une fête est un livre absolument splendide, qui est trop peu lu d'ailleurs. Et voilà, simplement le roman avance par petites touches de dialogue. Et on sent que la séparation physique entre les deux corps, qui implique évidemment une relation très passionnée, mais en même temps complètement désabusée, va s'achever par la mise à mort du personnage qui est évidemment une confidence biographique d'Hemingway.
Comment comprendre la présence assez insistante du portrait ? Tout à l'heure, vous parliez de la mère d'Adriana, et soudain, j'y pensais.
Oui.
Le personnage ne cesse pas de lui parler.
Oui, c'est ça. Tout le roman est construit sur le fait que, voilà, un homme qui sait beaucoup de choses, qui a fait la guerre, il y a des réflexions de stratégie militaire sur ce que les combats qui se sont déroulés là, au nord de l'Italie, auxquels Hemingway a pris part. C'est un homme qui sait beaucoup de choses, qui s'est battu, qui a été blessé, qui a tué, qui va mourir d'une crise cardiaque et qui le sent. Il sait énormément de choses, mais c'est pas la peine de les savoir. Voilà exactement le testament d'Hemingway. C'est pas la peine de les savoir, et par conséquent, il est en dialogue avec quelqu'un qui n'a pas à savoir ces choses, qui vit dans une sorte de pure apparence, comme un portrait. Voilà. Et c'est l'apparence qui a raison, c'est l'oubli qui a raison, c'est la chose pour rien qui a raison. C'est pas du tout, encore une fois, la profondeur de l'expérience humaine dans la mort ou le massacre. Hein. C'est-à-dire, c'est un renversement de perspective de toute la philosophie immanente à l'art littéraire d'Hemingway. Et finalement, c'est sa philosophie la plus profonde. C'est-à-dire, c'est la pure apparence des choses qui a raison. C'est pas du tout le fond.
J'ai l'impression que l'itinéraire du narrateur à travers Venise correspond aussi à l'itinéraire de Hemingway à travers le monde et qui relève un peu de l'obsessionnel. Il y a d'abord un itinéraire qui précède la Deuxième Guerre mondiale, oui. Et ensuite la réplique juste après la Deuxième Guerre.
Exactement. Moi, ce qui m'avait intéressé, là, j'en parle dans Portrait du joueur, ce qui m'avait intéressé, c'est de voir comment il débarque à 18 ans ou 19 ans à Bordeaux, comment il va tout de suite en Italie, puis en Espagne, et puis c'est encore une fois, c'est toujours cette espèce de recherche du Sud, j'allais dire catholique, pour un homme du Nord. C'est Faulkner et Hemingway sont très explicites là-dessus, n'est-ce pas ? Ce sont les écrivains les plus non-allemands qu'on puisse imaginer. Et c'est pour ça qu'avec Joyce, avec Proust, avec Céline, avec Faulkner et Hemingway, on tient là le cœur absolument formidable de la littérature du XXe siècle. Tout le reste étant flou et vaguement germanique. La fin au-delà du fleuve et sous les arbres d'Hemingway est à l'égal de toutes ces chutes qui sont toujours extraordinaires, parce que c'est vraiment quelqu'un qui a le sens de la chute, qui résume tout. Et il faut voir la scène, n'est-ce pas ? C'est sur la route, il est dans une voiture avec son ordonnance, ce colonel Cantwell, et il sent qu'il va avoir sa dernière attaque cardiaque. Juste à ce moment-là, cela le prit de plein fouet, comme il s'y attendait, depuis qu'il avait relevé les leurres avec le batelier. Ils reviennent de la chasse, là. Trois attaques font le compte d'habitude, pensa-t-il, et on t'en a accordé quatre. J'ai toujours été un putain de vénard. Cela le saisit une seconde fois, cruellement. Jackson, dit-il, savez-vous ce qu'a dit le général Thomas G. Jackson, en certaines circonstances, celle où il rencontra sa mort ? Je l'ai su par cœur autrefois. Je ne garantis pas que ce furent exactement ses paroles, bien entendu, mais les voici comme on les a rapportées. Ordre à A.P. Hill de se préparer à l'attaque. Ensuite, il délira encore vaguement. Puis il dit, non, non, traversons le fleuve et reposons-nous à l'ombre des arbres. Très intéressant, mon colonel, dit Jackson. C'était sans doute Stonewall Jackson, mon colonel. Le colonel voulut parler, mais il y renonça pendant que ça le prenait pour la troisième fois et que ça le tenait si bien qu'il sut qu'il n'y couperait pas. Jackson, dit le colonel, rangez-vous sur le bord de la route et mettez-vous en code. Connaissez-vous le chemin jusqu'à Trieste, d'ici ? Oui, mon colonel, j'ai ma carte. Bien. Je vais me transporter à l'arrière et me caler sur la grande banquette de cette putain de monstre de bagnole de luxe. Ce fut la dernière chose que dit jamais le colonel. Mais il parvint très bien à gagner la banquette arrière et referma la portière. Il la referma soigneusement et comme il fallait. Au bout d'un moment, Jackson repartit le long de la route, bordé de fossés, de saules, tout phare allumé, cherchant un endroit où tourner. Finalement, il en trouva un et tourna prudemment. Quand il fut sur le côté droit de la route, face au sud, en direction du croisement qu'il mettrait sur la grande route de Trieste, celle qui lui était familière, il alluma la lampe de bord, tira le feuillet et lut. « Au cas où je mourrai, le tableau sous emballage et les deux fusils qu'on trouvera dans cette voiture seront retournés à l'hôtel Gritti, Venise, où leur propriétaire légitime viendra les réclamer. Signé Richard Cantwell, colonel d'infanterie, USA. Ils les retourneront certainement par la voie hiérarchique, pensa Jackson. Et il embraya.
Mais on peut se demander de quoi est fait le dernier grand amour, et j'ai envie de vous demander, est-ce que ce n'est pas aussi le sujet d'un anti-roman d'amour ?
Certainement, parce qu'il y a le désabusement, il y a le dégagement par rapport à tout, et ça aussi, ça a choqué. C'est le contraire du pathos amoureux, c'est le contraire du pathos à propos de la guerre ou de l'aventure humaine, des grands mouvements historiques. Donc c'est un défi extrêmement sec comme la balle que Hemingway s'est tirée, hein, à tout le pathos du bas. C'est pour ça que ce livre est beau comme la tempête de Shakespeare. C'est-à-dire, on brise sa baguette, et surtout, la leçon, c'est la leçon de politesse extrême avec les règlements de l'existence. C'est un désabusement surhumain, enfin, il y a un côté magnifiquement nietzschéen chez Hemingway, de ce point de vue. Hein, c'est-à-dire, on referme soigneusement la portière, on a rangé ses affaires, un tableau et fusil, c'est bien, pour un blason d'écrivain. Et voilà, tout est en ordre, et puis c'est tout, il n'y a pas tellement à insister. Et je crois que c'est dit avec cette politesse humoristique du désespoir, qui est dans une tradition tellement aristocratique, tellement visiblement aristocratique, ça me paraît être vraiment un des messages les plus lourds qui a été fait au XXe siècle.
Est-ce qu'il y a de la politesse entre le narrateur, le colonel et Renata ? Dans la mesure où le geste conduit toujours au souvenir.
Oui, c'est ça. Ils échangent. L'un des plus beaux passages, c'est quand elle lui offre des pierres précieuses. Enfin, qu'elle lui demande de sentir tout le temps dans sa poche, avec sa main blessée. Bon. Donc il y a aussi une ironisation, une lucidité particulière par rapport à ce que, lourdement, dans le langage allemand, hein, on appellerait la castration, et patati et patata. C'est tout ça est joué, n'est-ce pas, ironisé. C'est rien, ce sont des rapports à fleur de peau. On échange des informations tout à fait, presque sans importance, avec cet art magnifique du dialogue chez Hemingway, qui consiste à pouvoir raconter en deux ou trois pages ce qu'il faudrait à un romancier péniblement décidé à tout décrire. Il faudrait 200 pages. L'art du dialogue chez Hemingway, c'est ça qui est extraordinaire. C'est que vous avez en une page et demie un nombre d'informations considérables. Considérable. La moindre nouvelle de Hemingway le prouve. C'est l'art qui consiste à mettre deux personnages en situation, à mettre le lecteur comme tiers, et par une... Vous n'arriverez jamais à comprendre exactement comment c'est fait. Le lecteur assistant à cette conversation entre les deux personnages, étant de là, finit par avoir l'information de ces deux personnages en train de dialoguer, qui pourtant ne transmettent pas autre chose que des banalités ou quelques souvenirs, comme ça. Et tout à coup, vous êtes en une page et demie, au cœur même d'une série d'informations. Moi, c'est un art qui me fascine beaucoup, ça.
Qu'est-ce qui vous intrigue dans la légende de Hemingway ?
Ce qui m'intrigue le plus, c'est la discrétion dont il a fait preuve, c'est-à-dire la façon dont il s'est laissé faire par sa propre mythologie, qu'il a vaguement organisée comme ça. Il s'est, un corps quand même très visible, boxeur, voilà, les courses de taureaux, les poils sur la poitrine, la pêche, les espadons, tout le monde s'est précipité là-dessus. C'était le grand panneau qu'il a tendu à toute son époque. Et derrière ça, il y a tout simplement quelqu'un qui travaillait sans arrêt. Parce que il faut voir quand même le nombre de livres et la précision, l'extrême précision du travail. Donc, je crois que c'est quelqu'un qui s'est beaucoup amusé à mystifier justement tout le système de starification et de mythologie de l'époque. C'est un des premiers qui vit ça, complètement dédoublé, à mon avis. Il a accepté de passer pour un ivrogne, il a accepté de passer pour un macho, toutes ces histoires-là. Et en réalité, c'est un comble de raffinement, de sensibilité, de discrétion, d'efficacité littéraire. Là, je crois que la plaisanterie est très, très grosse, très énorme.
Il est né écrivain, selon vous ? Ou bien il s'est trouvé assez tard en faisant du porte-à-porte?
Non, pas du tout, tout de suite. Il n'y a qu'à lire ce qu'il écrit. Il est très jeune, il est complètement dans le coup. Il y a beaucoup de réflexions sur l'art de l'écrivain chez Hemingway. Dans tous les livres, il parle de ça. Hein, comment il est dans sa chambre en haut, comment il admire les écrivains, comment il est tout à fait à la recherche de la gloire littéraire, comment il regarde par la fenêtre la famille Joyce en train de déjeuner à Paris, par exemple. C'est extraordinaire, ça. Tout ça se passe à Paris. Et il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette amnésie organisée qui veut que plus personne n'ait le droit de penser que toutes ces choses si fabuleusement intéressantes, que ce soit Finnegan's Wake, que ce soit une grande partie de la d'œuvre d'Hemingway, que ce soit aussi des impressions très profondes que vous retrouvez jusque dans le sanctuaire de Faulkner, tout ça se passe à Paris entre 1925 et 1939. Hein, oui. Et alors, comme il y a eu un effondrement, une sorte de tabou jeté sur tout ça, on parle toujours des... Parce que, évidemment, les Français ont un problème avec eux-mêmes, alors il y a des histoires. Mais alors, on oublie que Paris était une ville où tout ça avait lieu. Vous ajoutez Picasso et quelques autres, et ça fait vraiment quelque chose d'impressionnant. Les Américains n'ont pas intérêt à propager l'idée que toutes les choses importantes se sont faites à Paris à ce moment-là, Fitzgerald et compagnie. Hein. Mais pour un écrivain français, 40 ans après le désastre de la Deuxième Guerre mondiale, ça paraît lumineux. C'est si étrange que personne n'en parle.
Vous vous souvenez, Dante est comparé à Leclerc?
Ah oui, fabuleux ça. Oui, c'est plein de... Hemingway était quelqu'un, à mon avis, de très cultivé. Ça aussi, autre mystification et mythologie, pareil. Mais une culture extrêmement étendue, mais toujours présentée sous la forme de l'anecdote un peu amusante. Hein. C'est comme l'allusion à Joyce à Finnegan's Wake, qui est très sophistiquée, mais qui est présentée comme un artifice de conversation. C'est ça qui m'étonne le plus chez lui. En effet, Dante, ça sera comme un général. Voilà, oui, c'est ça. Mais c'est chaque fois fait de façon extrêmement élégante.
No writer who knows the great writers who did not receive the prize can accept it other than with humility. There is no need to list these writers. Everyone here may make his own list according to his knowledge and his conscience.
Hemingway, prix Nobel 1954.
The ambassador of my country to read a speech in which a writer said all of the things which are in his heart. Things may not be immediately discernible in what a man writes, and in this sometimes he is fortunate. But eventually they are quite clear, and by these and the degree of alchemy that he possesses, he will endure or be forgotten. Writing at its best is a lonely life. Organizations for writers palliate the writer's loneliness, but I doubt if they improve his writing. He grows in public stature.
Ce qu'un homme veut dire n'est pas toujours immédiatement perceptible dans ce qu'il écrit, et pour ce qui est de cela, il a quelquefois de la chance. Mais à la fin, ce qu'il veut dire deviendra tout à fait clair, et c'est cela et le degré d'alchimie qu'il possède qui déterminera s'il durera ou sera oublié. La vie d'un écrivain, en mettant les choses au mieux, est une vie solitaire. Les groupements d'écrivains pallient la solitude, mais je doute qu'ils améliorent son écriture. Son importance grandit aux yeux du public lorsqu'il renonce à sa solitude, mais souvent son œuvre en souffre, car il travaille dans la solitude, et s'il est assez bon écrivain pour cela, il doit chaque jour affronter l'éternité ou le néant. Chacun de ces livres devrait être, pour un véritable écrivain, un nouveau commencement, un départ, une fois de plus, vers quelque chose qui est hors d'atteinte. Il devrait toujours essayer de faire quelque chose qui n'a jamais encore été fait, ou que d'autres ont essayé de faire, mais en vain. Alors, quelquefois, avec beaucoup de chance, il réussira.
C'était « Au-delà du fleuve et sous les arbres » avec Philippe Solers, le troisième volet d'une série de 5 chemins de la connaissance que Jean Dève consacrait à Ernest Hemingway. Première diffusion le 23 octobre 1985 sur France Culture. À suivre. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr et sur l'application Radio France.